BFM Business et Tech & Co présentent Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Un grand bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Il est 20h en ce jeudi soir. Merci d'être là et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Vous le savez, 90 minutes de tech. On est là chaque soir du lundi au jeudi. Et on va terminer cette soirée avec un feu d'artifice. Avec au sommaire de Tech & Co ce soir, une interview exceptionnelle pendant plus de 40 minutes. Jonathan Ross, qui est le CEO de Grok, répondra à toutes mes questions. On va beaucoup parler d'intelligence artificielle. Grok, c'est un petit peu, on va dire, le processeur hyper puissant de l'IA. On rentrera dans les détails, bien sûr, à partir de 20h45. On parlera aussi de cette guerre des puces dans ce débrief, hein, de l'IA. Tout le monde veut sa puce. Et puis, on évoquera aussi ce sujet fait débat en ce moment. Comment vérifier l'âge sur Internet et comment savoir qu'on a véritablement plus de 18 ans. Visiblement, l'Arcom est en train de plancher sur une solution avec une carte bancaire. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de très sérieux? Là aussi, ce sera l'un des sujets qu'on évoquera dans ce débrief. Encore une fois, un grand merci d'être là. Bienvenue, c'est parti pour Tech & Co, la quotidienne.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Un débrief ce soir avec Marjorie Paillon qui est avec nous. Salut Marjorie.
Hello.
Ravie de te retrouver, journaliste bien évidemment que vous connaissez. En face d'elle, c'est Frédéric Simotel. Salut Fred.
Bonsoir François, hop là.
Voilà, Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business, qui débute dans ce métier, donc il ne sait pas où est le bouton pour
allumer
le micro.
Non, on n'arrête pas de me l'éteindre.
Moi j'ai l'ascension, on me l'avait préallumé des fois que...
Je soupçonne des gens en régie de...
Vous avez vu, on a quand même un travail compliqué, hein. Parfois il faut appuyer sur le micro, éteindre, enfin bon bref. Merci d'être là tous les deux, on va débriefer l'actu. Alors, une émission un peu particulière, je le disais, puisque ce débrief, ce sera jusqu'à 20h45, avec l'info éco comme d'habitude jusqu'à 20h30. Et puis dès 20h45, Jonathan Ross en interview. Alors, vous ne connaissez pas Jonathan Ross et vous ne connaissez peut-être pas Grok, sauf si vous êtes un fidèle de Tech & Co, parce qu'on en parle de temps en temps. Grok, c'est un peu, on va dire, la puce d'intelligence artificielle que tout le monde s'arrache, que tout le monde veut. En gros, ce que fait Grok avec sa puce, c'est qu'il accélère en quelque sorte les réponses que vous avez lorsque vous tapez en fait un prompt sur l'IA générative. Et je vous invite à tester Grok, parce que c'est au-delà d'une puce, c'est aussi une IA que vous pouvez tester. Et vous allez voir, c'est incroyable. Vous tapez une question. D'habitude avec ChatGPT, on a toujours 2-3 secondes de réflexion avant que le texte commence à s'afficher. Là, Grok, c'est instantané et d'un coup vous avez tout le texte. C'est presque magique. On se dit mais comment font-ils ? Alors pour l'écrit, c'est cool, mais imaginez pour la voix, imaginez pour l'intelligence artificielle et le vocal, et demain la robotique. Bref, il y a quelque chose avec Grok, et donc Jonathan Ross répondra à toutes mes questions tout à l'heure. On évoquera évidemment la régulation de l'intelligence artificielle, le fait qu'il veuille s'implanter en France, hein, il va nous le dire encore une fois, et pour être tout à fait transparent, cette interview a été enregistrée il y a un peu plus de 24 heures. Donc on vous la diffuse à partir de 20h45. Ben justement, on va commencer par les guerres des puces.
La guerre des puces qui n'en finit plus, qui rebondit. C'est vraiment des...
C'est incroyable.
C'est un épisode littéralement par semaine en ce moment. Et puis, tu parlais de Grok. Et c'est vrai, c'est important. On a envie de savoir ce que son CEO a envie de nous dire. Parce que c'est une boîte qui a été créée en 2016. Aujourd'hui, ils accélèrent et ils ont des ambitions qu'on dit parfois supérieures. En tout cas, sur leurs puces et leurs accélérateurs justement de semi-conducteurs à NVIDIA. Avec Grok, on va entrer dans une nouvelle, finalement, littérature et dans des nouveaux acronymes pour parler de puces. Avec NVIDIA, on parlait beaucoup de GPU, de processeurs graphiques. Cette fois-ci, on va parler de LPU.
C'est ce qu'on a révisé tout à l'heure avec Fred.
Pour le langage naturel.
Oui, parce que c'est compliqué. Il y a NPU, il y a LPU, il y a CPU, il y a GPU.
TPU chez Google. Et on en parlera avec Google dans un instant. Donc, chacun arrive avec son accélérateur super puissant de semi-conducteurs. Et tout ça, encore une fois, pour alimenter l'économie et les écosystèmes d'intelligence artificielle. J'allais dire, quel que soit leur modèle de langage en réalité. Et ce que Grok essaie de démontrer, c'est qu'une start-up peut être plus puissante aujourd'hui qu'un groupe qui est valorisé 300 milliards de dollars. C'est absolument phénoménal. Donc, est-ce que Jonathan va réussir, je l'appelle Jonathan directement, comme ça,
va réussir. Tu vas voir, il est très sympa en plus.
Mais j'imagine bien. That's very American, tu vois, d'être aussi sympa. Ça, c'est un vrai enjeu et c'est vraiment la façon de voir aussi comment est-ce que chaque groupe, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, est en train d'essayer de réduire sa NVIDIA dépendance. Parce qu'aujourd'hui, on est entré dans un monde où toute l'accélération de l'IA repose, on le dit souvent ici, évidemment sur l'infra-IA, sur le hardware, et donc a besoin de ces GPU NVIDIA, mais qui commencent à coûter très cher à tout le monde.
Non, et puis en plus, le marché est encore plus complexe parce que il y a d'une part les supercalculateurs avec tout un tas de nouveaux acteurs aussi. On parle Nvidia est dans les supercalculateurs, mais t'as des gens comme Cerebras, hein, on connaît pas bien cette entreprise, mais voilà, une boîte absolument incroyable avec une puce nanomètre sur laquelle il y a 4 000 milliards de transistors, enfin, un truc complètement sidérant pour les supercalculateurs. Ensuite, on a ces puces aussi qui sont dans les serveurs chez les hyperscalers, donc les Google, Amazon et tout ça. Et puis après, on a ces puces aussi qui vont se retrouver, enfin un peu là-dedans, mais beaucoup dans nos PC. Je pense que c'est ce qu'on va vivre dans les 18 prochains mois, c'est le renouveau un peu des PC. Bien parce sûr. Que ce qu'essaie de faire, parce que derrière tout ça, il y a tous les enjeux environnementaux de calcul. On parle beaucoup de edge computing, c'est-à-dire aujourd'hui, parce qu'à un moment, voilà, l'énergie, parce qu'on se soucie un peu moins de ça, hop, on balançait les calculs, on allait faire ça dans le cloud et c'était très bien, même si c'était assez loin, on s'en fichait. Là, on s'en fichait plus ou moins. Voilà, c'était pas une grande problématique. Un peu plus que moi. Mais aujourd'hui, on essaie de rapprocher parce qu'on veut que les calculs soient encore plus rapides. On veut traiter des datas. On veut consommer moins de requêtes. Donc, on se dit, il faut rapprocher les calculs de l'utilisateur. Et donc, du coup, on va avoir des PC un peu plus puissants qui vont pouvoir peut-être aller chercher des données dans différentes bases de données, mais qui vont faire tourner ça un peu plus en local, ou au moins en local dans un réseau d'entreprises. Et là, du coup, c'est un nouveau type de composant aussi qu'il va falloir avoir. Et derrière tout ça, ce qui est hyper intéressant dans ce marché des composants, c'est il y a évidemment les défis technologiques, on en parle, voilà, et l'infiniment plus petit. Il y a les défis, et puis la guerre entre tous, quelle technologie, LPU, NPU, GPU, tout ça. Il y a les technologies, et il y a les défis environnementaux, parce qu'il faut consommer de moins en moins d'énergie, parce que ça va être vraiment ça aussi, le jeu. Et puis, il y a tous les défis de souveraineté, de sécurité, de souveraineté, de savoir s'il n'y a que les Chinois et que les Américains, nous, au milieu, est-ce qu'un jour, les Américains peuvent, comme ils le font avec les Chinois, dire, attendez, c'est plus là...
On n'est pas totalement absent, quand même.
Non, oui, mais... Tu vois,
il y a une partie du marché sur lequel on n'est pas.
Il y a beaucoup de composants. Si un jour les Américains disent, attendez, ceux-là, on attend un peu pour les vendre aux Européens.
On va se garder une petite exclue.
Dans les révolutions, les étapes justement que tu abordes là, il y a aussi la composante géopolitique qui est absolument crucial,
parce surtout qu'on le voit en ce moment.
Absolument. On le voit avec l'administration Biden qui a prorogé, même si j'ose dire, des décisions de l'administration Trump, vis-à-vis de la Chine, notamment sur la vente de certaines technologies. NVIDIA en a fait les frais sur une partie de ses puces. L'administration américaine est aussi en train de faire du soft power et un peu du lobbying auprès des administrations des Pays-Bas, par exemple, ou du Japon, chez ASML d'un côté, chez Nikon et Canon de l'autre, pour qu'il n'y ait pas non plus certaines technologies qui soient vendues à la Chine, notamment en matière de lithographie, mais on va y revenir dans un instant. La lithographie, c'est ultra important parce que c'est la technologie en fait qui permet de pouvoir graver encore plus rapidement et de façon encore plus précise des puces de moins de 14, moins de 7, moins de 5 nanomillimètres. C'est ce qu'on est
C'est-à-dire qu'on les imprime carrément.
Exactement. Quand tu parlais, Fred, de ce défi de l'infiniment petit, il est réellement là. Mm-hmm. Et il me semble aussi que, mais j'ai peut-être dû me tromper, sorti de la crise du Covid, on a un commissaire européen qui s'appelle Thierry Breton qui nous avait dit qu'on avait un défi en Europe. Et dans toute cette réindustrialisation européenne et ce réarmement, alors c'est un peu plus macroniste comme propos, mais ce réarmement tech et numérique, toujours dans la droite ligne d'une souveraineté industrielle et numérique européenne, on avait aussi ce défi d'aller graver du microprocesseur, de la puce, de moins de 5 nanomillimètres. Je ne sais pas où on en est. C'est une petite question comme ça.
Je crois qu'on n'y est pas encore.
Non. Parce qu'encore une fois, il y a toujours cette notion de graver plus petit et de consommer moins d'énergie. Oui, c'est un peu compliqué. Et il y a un autre enjeu aussi derrière tout ça. C'est l'enjeu de standardisation. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, n'importe, que l'on soit Nvidia, que l'on soit Grok, que l'on soit Intel, que l'on soit ARM, tout ça, on peut pas se permettre de partir tout seul dans une voie. Il faut qu'à un moment, il y ait une certaine interopérabilité, il faut qu'il y ait des normes, des réglementations et tout ça, comme il y a eu hein, à l'époque, même si on a eu un Intel face à un AMD, il y avait des choses qui étaient réglées
le
par
X86 notamment.
Voilà. Hein, voilà, il y avait quelques couches qui étaient normalisées parce que ils mutualisent un peu tout ça, et puis que derrière, pour des clients, se dire imagine, je m'embarque avec Nvidia, et puis Nvidia va multiplier par 4 ses prix un jour.
Je suis déjà en train de se passer sur certaines.
Comment je fais pour rebasculer vers un autre fournisseur? Enfin voilà, il y a des choses, et ça aussi, c'est quelque chose d'assez important, c'est que tous ces mal, c'est toujours ça qui est paradoxal dans notamment dans la technologie, c'est que malgré leur concurrence, quelque part, ils doivent quand même discuter entre eux pour dire ils font partie de grandes instituts de l'I3E.
Ils ont malgré tout une ligne de standard à respecter.
Oui, à respecter, parce que sinon, alors il y en a un qui peut aller plus vite et qui peut tirer le standard et dire écoutez, à vous de suivre, et puis les brevets, parce que derrière il y a des brevets, il y a des coûts, enfin des royalties, des fees qu'on va. Donc c'est vraiment passionnant, et ce à quoi il faut faire attention, je parlais de souveraineté tout à l'heure. Alors on a des STMicro, on a des Soitec, on a des Galeries, on a des startups qui sont on a le quantique aussi, ça serait un autre domaine aussi après, mais attention de pas se laisser trop vite avoir avec des Américains d'un côté, des Chinois. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important. Alors on a ASML pour les lithographies, mais d'avoir des centres de production, si TSMC alors qui s'installe en Allemagne, bon ce serait mieux qu'il s'installe en France, mais même qu'il s'installe en Allemagne, c'est important.
Avoir un peu la même stratégie que les Gigafactory des batteries finalement,
ouais, voilà,
c'est vrai qu'en France on accélère là-dessus, on va en avoir 4 ou 5
en l'occurrence. Tu veux
pourquoi
aussi
ne pas avoir aussi ce que tu
mais il y a un moment tu vas aussi avoir besoin de ces accélérateurs, de ces boosters de semi-conducteurs, tu vas aussi en avoir besoin dans les batteries électriques, donc c'est l'ensemble d'un écosystème qui a besoin d'être littéralement boosté.
Fred, juste une chose, on parle pas beaucoup d'STMicro, qui est quand même une boîte européenne qui fait des processeurs.
Qui travaille pour Apple.
Qui travaille pour Apple, etc. On n'en parle pas beaucoup, c'est vrai, quand on évoque les microprocesseurs. Mais...
Parce que là, on est dans ceux qui sont dans les architectures, qui sont la couche plus haute.
mais ils fabriquent aussi des puces, ils sont dans les voitures, dans les iPhones.
Pas tous les capteurs.
Ils font plein de choses aussi. Hein. Donc on a quand même un savoir-faire européen.
Oui, mais pas dans le côté du traitement de la data, du traitement de l'image, du traitement de
la grosse puissance de calcul.
Voilà,
on s'est apporté, et tu citais de Soitec par exemple, ASML aussi, on s'est apporté la couche qui nous permet d'aller graver, d'aller chercher la précision sur ces plaques de silicone et aller chercher in fine CLPU, CGPU, produire cette partie-là du composant. Mais on n'a pas encore la société
Plus graphique, on l'a pas.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'Nvidia est attaqué de toutes parts finalement, et fait beaucoup de jaloux. Hein. Alors Nvidia aujourd'hui, le tout puissant, tout le monde est à genoux d'Nvidia pour acheter ses puces, hein, ses cartes graphiques, en fait ses GPU. Mais on voit que tout le monde essaie de se désolidariser, et notamment ceux qui ont de l'argent, les plus grands, essaient de se désolidariser.
Ce serait intéressant un jour
d'avoir Microsoft, Google.
D'avoir un historien autour des puces, parce que faut savoir qu'en 2015, Nvidia a failli mourir. Hein.
Oui.
Et heureusement, ils ont fait les rachats qu'il fallait, tout ça. Et puis,
c'est une boîte qui a toujours été très agile et qui a pivoté. Hein.
C'est assez incroyable. Et même leurs puces aujourd'hui, alors c'est des puces de calcul vectoriel et tout ça, c'était pour du jeu vidéo, les beaux graphismes. Oui. Et puis, c'est quelqu'un qui a dit, mais tiens, pour faire des calculs parallèles comme l'IA, mais c'est formidable. Donc, ils sont partis là-dessus. Ils ont eu des critiques à un moment en leur disant, oui, mais attendez, votre puce, elles sont pas optimisées pour l'IA parce qu'elles sont faites pour les jeux vidéo. Là, on a vu la dernière version, il y a 15 jours, c'était la grande messe Nvidia, on a vu que
ils ont commencé à s'aligner.
Non, et surtout, il y a une vraie vision de Jason Wang sur ce qu'est un écosystème des intelligences artificielles. Encore une fois, de la couche de l'infra, du hardware jusqu'au software. C'est fondamental pour pouvoir justement porter une entreprise aujourd'hui comme Nvidia là où elle est. Aujourd'hui, Nvidia, sa part de marché, c'est 80% de mondial des ventes justement de ces GPU et de ces boosters de microprocesseurs. Donc c'est extrêmement important. Donc évidemment, tout le monde cherche une façon de réduire sa Nvidia dépendance. Ça, on le disait déjà. Après, chacun essaie de définir son standard. On a parlé de LPU chez Grok. On a parlé de TPU chez Google. Mais c'est encore pour d'autres raisons, parce que là, ils vont aller chercher Amazon notamment, et pas que, et Microsoft aussi en partie sur le cloud, pour encore une fois fois montré qu'il faut bien à un moment donné mettre aussi ses volumes de calcul et ses data quelque part, et ça se fait bizarrement dans les clouds et dans des data centers. Et puis tu as quand même chez Meta aujourd'hui cette proposition alors qui vient, on a l'impression que ça vient quand même un peu en réaction les uns aux autres. Google dévoilait Axiom il y a quelques jours à peine, Meta dévoile Artemis. On s'appelle Artemis, du coup, chez Meta, c'est très beau, parce que Artemis est quand même la déesse de la guerre dans la mythologie grecque.
Guerre de l'IA est ouverte.
Oui, mais en fait, ce qui est intéressant aussi en élément de langage, c'est qu'aujourd'hui, je regardais un petit peu la façon dont chacun annonçait sa nouveauté et son lancement. Tout le monde te dit, ah non, mais c'est certainement pas une guerre. Au contraire, on est là pour ouvrir la concurrence, pour que ce marché puisse grossir.
C'est pas la mission sur la Lune aussi qui s'appelle Artemis ?
Absolument, oui. t'as aussi une mission lunaire qui s'appelle Artemis. Sauf qu'on est quand même vraiment positionné dans une guerre où chacun est en train de fourbir ses armes. Mark Zuckerberg, il n'a pas perdu l'idée de commander 300 000 GPU à Nvidia. Ce qui va lui coûter quand même extrêmement cher.
Mais ce qui est marrant, c'est la façon dont l'IA a relancé ce marché. Il existait, ce marché, mais a mis ce marché au devant de la scène. Mm-hmm. C'est-à-dire, parce qu'avant, on parlait des puces, on disait, jamais on aurait. Nvidia sortait sa nouvelle puce, on en aurait fait une brève.
Oui, c'est sûr.
Et là, aujourd'hui, non, parce que c'est un enjeu technologique, stratégique, géopolitique, de souveraineté, environnemental.
On en parlait déjà un peu l'année dernière, il y a deux ans, rappelle-toi, avec le minage de Bitcoin.
Oui, exactement.
C'est vrai que. Nvidia a toujours été très agile, et on le doit à son patron emblématique. Ils étaient au début sur les cartes graphiques. Après, ils se sont dit, c'est un marché quand même de niche. On va pas beaucoup grossir avec ça. Tiens, on va aller du côté des voitures. Là, ils ont commencé à faire des processeurs pour les voitures. On parlait déjà de la voiture autonome. Finalement, la voiture autonome aussi, on se rend compte que c'est pas si facile que ça. C'est un peu passé à la trappe. Le minage de Bitcoin et puis après l'intelligence artificielle. Donc en fait la base de ce qu'il fait, cette puissance de calcul, à chaque fois il a réussi à l'adapter à la technologie du moment. Et ça c'est vraiment très très fort.
Et puis à maintenir des coûts assez élevés qui forcent les gens à faire de l'argent. Et malgré tout, et tu le dis avec Jonathan Ross qui sera en plateau là qui sera dans cette interview dans trois quarts d'heure, il y a de la place pour se faufiler pour un petit. Alors après, il fait le design. C'est des industries faiblesses. Il faut qu'il trouve ensuite ses fournisseurs. Après, ce dont on se rend pas compte non plus, c'est que tous ces changements de technologie, on passe pas du. Je vais arriver sur le marché. Je vais avec mes serveurs. Je m'appelle que Amazon, Google, Microsoft, ça va, je peux passer des commandes un peu lointaines. Mais on ne se rend pas compte que souvent, les carnets de commandes sont assez pleins et qu'aujourd'hui, je veux aller chez Nvidia, je suis un nouvel acteur, je veux aller chez Nvidia, j'ai plein d'argent. Je vais chez Nvidia pour dire, écoutez, je m'appelle Aramco. Et puis, j'ai des super calculateurs pour calculer la production de pétrole, tous ces trucs-là. J'ai vraiment plein d'argent. Je vais arriver pour dire, tiens, finalement, moi, je veux mes puces à moi. Je vais arriver chez Nvidia, j'aurais beau mettre plein d'argent sur la table, attendez, il y en a pour. Il y en a pour 15 mois, il y en a pour 15 ou 17 mois.
Voilà, on reviendra sur ce sujet de le côté indispensable aujourd'hui de cette puissance de calcul des processeurs avec notre invité Jonathan Ross. Ce sera aux alentours des 20h45. Interview exclusive donc. Mais auparavant, j'aimerais qu'on passe à un autre sujet parce que c'est vrai que le temps tourne et l'actualité est plutôt riche avec notamment ce projet de loi SREN qui a été définitivement adopté. C'était hier, on en parlait déjà hier dans Tech & Co. On en sait un petit peu plus sur la manière dont on va pouvoir, j'allais dire pister, mais en tous les cas vérifier si, lorsqu'on va sur un site pour adultes, on a plus ou moins de 18 ans. Parce que c'est ça le gros problème aujourd'hui, c'est que voilà, vous allez sur des sites, on va dire, populaires pour adultes, il suffit de cliquer « oui, j'ai plus de 18 ans », et puis après, c'est le buffet à volonté, si je puis dire. Là, maintenant... il y a une volonté de la part de l'ARCOM de mettre en place un système de carte bancaire. C'est-à-dire que vous rentrerez un numéro de carte bancaire, votre numéro de carte bancaire. Évidemment, on ne vous retirera pas d'argent, mais c'est pour vérifier que vous avez 18 ans.
Alors, c'est le serpent de mer absolu d'Internet. La façon dont les utilisateurs mineurs peuvent vraiment, sans le faire exprès, accéder à des sites pour adultes. En l'occurrence, ça a toujours été
l'émission.
Ça a toujours été
Louis bouche les oreilles.
Et même du côté des plateformes, finalement, quand on demande aux réseaux sociaux de vérifier l'âge des utilisateurs et des utilisatrices pour vérifier qu'ils ont bien plus de 13 ans ou plus de 15 ans avec la loi française et la SREN pour pouvoir s'inscrire sur un réseau social, toutes les plateformes diront Mais monsieur l'agent, je peux rien faire, c'est du déclaratif. Donc si l'utilisateur qui veut s'inscrire me dit oui, j'ai plus de 15 ans, oui, j'ai plus de 18 ans, je suis obligé de le croire. Le Royaume-Uni, dans la façon dont ils ont updaté aussi leur RGPD-like pour les mineurs, a essayé d'avoir des actions très concrètes sur la vérification de l'utilisateur. Ils se sont cassés les dents, ils ont retiré, ils ont fait un rétropédalage magnifique sur le sujet. Énormément de pays ont essayé de le mettre en place. Là, l'ARCOM nous dit OK. L'ASREN ayant été voté avec les déboires qu'on connaît, puisque retoqué par la Commission européenne pour une raison toute simple. On ne peut pas contrevenir aux lois d'un pays État membre de l'Union européenne. Donc, on peut appliquer cette loi en France, en dehors de l'UE, mais pas aux autres pays membres de l'UE. Oui.
C'est quand même assez savoureux.
J'avoue, c'est un compte.
C'est savoureux.
Mais notamment dans l'histoire là qui nous occupe, ça veut dire que pour Pornhub, pour...
YouPorn, pour tous ces...
En l'occurrence, pour Xvideos, j'ai vérifié la
citoyenneté,
la nationalité. Non, pas les sites.
Ah bon, Marjorie, attention.
La nationalité des propriétaires des sites. En France, les trois sites porno les plus utilisés, c'est Xvideos, Pornhub et Stripchat. En l'occurrence, Xvideos appartient à une holding tchèque. Pornhub, c'est Ilo et c'est luxembourgeois. Stripchat, c'est Technus et c'est chypriote. Ce sont trois États membres contre lesquels l'ARCOM ne pourra pas imposer.
Tu veux dire par là que les trois sites les plus populaires, gratuits,
L'ARCOM ne pourra
avec
pas
du
leur
contenu
imposer
pour adultes.
Vérifier l'âge des utilisateurs pour savoir s'ils sont mineurs avec la carte bleue.
Donc ça continuera toujours. Je clique sur oui, j'ai plus de 18 ans et j'ai droit.
Tu veux accéder au site de Marc Dorcel, là par contre, oui, il faudra rentrer ta carte bleue et on pourra vérifier si tu es majeur ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on marche sur la tête.
On se rend compte que c'est. Que vraiment.
On continue à marcher sur la tête en l'occurrence.
À part communiquer, ça ne sert à rien finalement.
Alors, t'as aussi une idée de gradation. Donc l'ARCOM dit dans un premier temps, là dans les médias, on propose cette solution avec la carte bleue pour vérifier si l'utilisateur est en âge d'avoir une carte bleue et donc s'il est majeur. Je rappelle qu'il y a des cartes bleues pour ados qui démarrent à partir de 16 ans, donc voilà. Bon, c'est encore autre chose. Et d'ici 6 mois, on va proposer une autre solution technologique beaucoup plus sûre. On attend de savoir.
Mais pour quel site ?
Pour ces fameux sites pornographiques, parce qu'en l'occurrence, c'est une affaire qui embête l'ARCOM.
Mais hébergé en France ou même pour l'Europe ?
Ce sera alors, je pense que du point de vue de la Commission européenne et du régulateur européen, ce sera toujours la même problématique. Tu ne peux pas réguler d'autres pays que toi en Union européenne si les États membres ne sont pas d'accord.
Moi, je pense qu'il faudrait combiner parce que le but, c'est de décourager. Tu sais, c'est comme contre les cambriolages. On peut pas empêcher
un cambriolage. Oui, tu peux pas éradiquer le cambriolage à 100%.
Si on met une porte blindée, une alarme, des caméras, on a un gardien qui est en bas de l'immeuble, des capteurs, des machins. Si après dans la maison, on a quoi ? Enfin bon, voilà. On va retarder tout ça. Et pour moi, aujourd'hui, par rapport aux mineurs...
T'as oublié le chien.
Oui, le chien, oui. Et les petits robots aussi, maintenant, qui peuvent
se... Les petits robots.
Et pour moi, aujourd'hui, je trouve que... Par rapport aux mineurs, c'est là où il faudrait mettre plein de choses et mettre la reconnaissance faciale, leur demander la carte bancaire, essayer de voir tout ce qui
peut... reconnaissance faciale pour aller sur un site porno, mais ça passera jamais en fait. C'est quelque chose d'inimaginable.
Alors vous souvenez, il y a quand même, autour
de l'IA, dans l'usage, dans tout ça, on sait reconnaître aujourd'hui des habitudes d'utilisation. Ouais. On se rend compte. Dans un foyer, tu te dis, tiens, c'est bizarre quand même. Connexion à 3 heures de l'après-midi, les IA. Enfin, tu vois, il y a aussi tout ça, de voir que. Alors, les IA peuvent reconnaître ça, de dire à 3 heures de l'après-midi.
L'IA pourrait dire, il y a, tiens, une connexion suspicieuse dans le foyer, à telle heure.
À 3 heures de l'après-midi, pourquoi ? Alors, envoyer un message et dire, est-ce que vous êtes bien l'utilisateur lambda ? Envoyer un message au propriétaire. C'est plein de petites choses. Alors, il faut mettre tout ça en place,
du pistage, ça, finalement.
Les associations.
Mais est-ce qu'on veut vraiment le combattre ?
C'est clair. Il faut essayer de protéger au maximum la liberté de l'individu, qui fait partie de notre République et de notre vie, finalement. Et de l'autre côté, malgré tout, trouver une solution pour éviter qu'un enfant de 14 ans tombe, comme tu le dis, accidentellement sur des sites porno.
Oui, parce que... Ouais. Et derrière, on est dans un vrai enjeu de sociétaux, c'est le comportement des hommes, des femmes vis-à-vis des uns des autres, et tout ça. Ceux qui pensent que les sites porno, c'est la vie de tous, tous les jours. En fait,
La première chose, c'est qu'on retombe sur le débat qu'on a déjà eu sur ce plateau sur l'anonymat en ligne, qui n'existe pas, jusque-là, tout va bien. Mais c'est la même problématique en réalité. Encore une fois, ce sont des serpents de mer aussi vieux qu'Internet. Ça fait 30 ans qu'on essaie de régler le problème, ça fait 30 ans qu'on n'y arrive pas. Donc, tu auras toujours...
Et aucun pays n'y est arrivé.
Aucun pays n'est arrivé. Tu auras toujours des associations de liberté en ligne qui sont dans leur rôle, à juste titre, et qui disent, attention, il y a des dérives potentielles à l'utilisation de ces technologies pour vérifier l'âge d'un utilisateur ou d'une utilisatrice, donc non, on ne peut pas les mettre en place. Tu as des gouvernements et des régulateurs et des régulatrices qui sont aussi dans leur rôle en disant mais il faut qu'on réussisse à trouver une solution. Et tu as des plateformes par ailleurs, une industrie qui n'a pas très envie d'aller très vite pour trouver des solutions par ailleurs. Donc je ne sais pas si vous souvenez.
Il y a des contrôles parentaux qui pourraient être mis en place.
Il y a des contrôles parentaux qui peuvent être mis en place, mais il y a un moment où dans l'apanage de solutions dont on débattait au moment des débats de la SREN avant qu'elle soit votée, on envisageait que France Connect puisse être l'outil d'authentification pour aller sur un site pour adultes.
Tu déclares tes impôts.
Et bonjour.
Et bonjour.
Et je vais aussi sur Pornhub. De toute façon, je n'ai j'ai pas à le faire puisque Pornhub, de toute façon, est luxembourgeois.
Oui, donc il n'y a aucun problème.
Donc tout va bien. Donc on a quand même un vrai souci avec ça. À un moment, il va falloir trancher. Je ne sais pas quelle est la bonne solution, je le dis tout de suite.
Mais je trouve que quand même,
par rapport à
ce que dit François, cette annonce autour de la carte bancaire, c'est des petits pas.
Oui, c'est des petits pas, bien sûr. Parce que même si tu peux avoir une carte bancaire à partir de 16 ans, c'est peut-être moins grave de voir du contenu pour adultes à 16 qu'à 13 ou 14. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, ça sera peut-être un nombre infime, parce que l'immense majorité des possesseurs de cartes bleues ont 18 ans. Donc, tu vois, c'est vrai que tu limites quand même la casse.
Sauf que le
Et c'est que pour les sites français, et la plupart des jeunes ne vont pas sur les sites français. Parce que ces sites-là, les Dorsel, etc., sont payants déjà.
Donc, de toute
façon. Est-ce qu'il n'y a pas le rôle des opérateurs?
Théoriquement, on ne peut pas y accéder.
Théoriquement, on ne peut pas y accéder.
Est-ce qu'il n'y a pas le rôle des opérateurs? Ils réussissent bien à couper le.
Mais pourquoi pas? Tu verrais. Mais l'impopularité d'un opérateur qui lance ça, il faudrait que tous les opérateurs se mettent de concert et lancent une solution commune.
En l'occurrence, ça fait partie des prérogatives de l'ARCOM. C'est-à-dire que l'ARCOM peut demander à un opérateur telco de bloquer le site. S'il n'est pas en train de respecter le fait de bloquer un utilisateur mineur. Donc ça
ils font déjà avec les sites pirates.
Oui, complètement.
Les sites torrent qui ont fermé.
Et ça marche très bien, en l'occurrence, sur la partie Adopi qui a été récupérée par l'ARCOM. Et ça a fait ses preuves. Et ça a fait ses preuves en matière de pédagogie aussi.
Bon, on n'a pas encore trouvé la solution. Mais on va suivre ça de près, tel de fin limier que nous sommes. Marjorie Fred, bientôt 20h30. On revient dans quelques minutes, juste après l'info écho. Encore un titre d'actu à évoquer. Vous savez qu'on va pouvoir réparer bientôt nos iPhones avec des pièces d'occasion, dis donc. C'est pas beau ça pour la planète. Merci Tim Cook. On va vous expliquer comment ça va marcher dans quelques instants, juste après l'info écho. Et merci de nous suivre. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, et juste après ce petit bout de débrief aux alentours des 20h45, ce sera notre grande interview de Jonathan Aros, le CEO de Grok, la boîte d'intelligence artificielle qui monte. Gageons que dans quelques mois, j'en suis persuadé, ce personnage sera tout aussi connu que Sam Altman, sans doute. Frédéric Simotel, Marjorie Paillon pour débriefer l'actu tech et Apple donc, qui a dégainé cette information qui est tombée il y a quelques heures, le fait de d'ouvrir un petit peu ces chakras concernant la réparation des iPhones. C'est vrai que la réparation des iPhones, ça a toujours été un truc un peu compliqué. Il fallait avoir une espèce de sourcing des pièces détachées que vous alliez installer sur votre iPhone cassé. Il fallait que ce soit des pièces qui étaient validées par Apple. Alors, tout ça ne va pas trop changer. Ce qui va changer, en fait, c'est le fait qu'on va pouvoir maintenant, dorénavant, à partir de l'iPhone 15 et 16 qui sortira l'année prochaine, enfin pas l'année prochaine, mais en septembre prochain, eh bien, réutiliser des pièces d'occasion. Mmh. Et ça, c'est cool.
Non, mais alors, du coup, des promesses que des promesses, parce que Étienne ne pourra jamais faire réparer dans ces conditions.
Parce qu'il a un iPhone 12.
Dommage pour lui.
C'est à partir du 15.
C'est à partir du 15.
Mais bon, vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de dire.
J'ai pas pu le faire réparer, donc maintenant j'ai un 15, je vais pouvoir le faire. Ça me fait très plaisir.
Je vais le faire tomber par terre pour voir.
On va peut-être attendre encore un petit peu, ce serait sympathique. Quelques mises à jour, tout ça. Parce qu'en fait, ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est le fait que Apple, finalement, pour une fois, prenne les devants. Je ne sais pas si vous en souvenez, messieurs, mais en 2020, une association qui s'appelle HOP, qui lutte contre l'obsolescence programmée et qui est française, Cocorico, avait porté plainte contre Apple. Le parquet de Paris s'était saisi du dossier et avait condamné Apple à payer 25 millions d'euros d'amende pour justement non-réparabilité des batteries. Et cette association, elle posait tout son argumentaire sur ce qu'on appelle la sérialisation. La sérialisation, c'est le fait, en fait, de lier le numéro de série de l'iPhone au numéro des pièces qui le composent. Et qui fait que, du coup, dès que tu veux changer une pièce, c'est exactement ce que tu décrivais, tu es obligé d'en référer à Apple, Apple parce que décidément, je suis très très anti Apple ce soir parce que il faut qu'Apple puisse avoir une traçabilité de ces pièces qui sont opérées. Mais on pense aussi qu'avec ces phénomènes, avec cette sérialisation, tu as aussi une possibilité de bloquer, par exemple, ton iPhone à distance. Quand une mise à jour ne se fait pas, ou qu'elle entraîne une batterie qui va marcher un peu moins rapidement, ou des fonctionnalités qui vont être un peu plus lentes qu'à l'accoutumée, que tu te dis c'est peut-être le moment de la fin de vie de mon iPhone, il va falloir que je change de génération d'appareil et de smartphone, et ben c'est exactement ce qui est en jeu dans la sérialisation. C'est quasiment de l'obsolescence programmée en monde organisé, quoi.
Fred, moi ça me fait penser un peu au marché de l'automobile. Quand on a un accident, par exemple, ou alors, je sais pas, moi, vous avez une pièce de votre voiture qui flanche, votre voiture ne marche plus, souvent le garagiste vous propose deux solutions, soit une pièce neuve à l'identique, soit une pièce de réemploi, comme on dit, c'est-à-dire que c'est la pièce de votre voiture qu'il faut, sauf que c'est une pièce d'occasion qui a été reconditionnée, qui est comme neuve, mais qui va coûter 30 à 40% moins cher. On a l'impression que finalement, là, Apple ne s'inspire pas de ça, mais en tout cas, c'est, pour qu'on comprenne, c'est à peu près la même chose.
Bah, Apple, ils sont sur un marché ultra concurrentiel aussi aujourd'hui, donc... Et là où ils avaient encore beaucoup de marge, enfin ils ont encore beaucoup de marge, hein, il y a les fans d'Apple, mais peu à peu, ils voient quand même beaucoup de gens qui commencent à se détourner, et pas forcément par rapport au prix, mais par rapport à tout un tas de petites choses. Oui, quand on a un téléphone d'une autre marque, eh bien on peut le réparer plus facilement, on peut changer la batterie, on peut acheter une batterie, la changer plus facilement. Et là, peu à peu, en plus aujourd'hui, commence tous quand même à avoir une petite conscience environnementale et se dire, je préfère essayer de réparer.
Conscience du porte-monnaie aussi sur. Ouais,
là, non, mais
un iPhone, c'est 1000 balles, quoi, minimum.
Et aujourd'hui tu vois, discuter avec des gens des marques Fnac Darty, disaient qu'aujourd'hui, ils voient, alors c'est encore petit, mais ils voient des gens, enfin voilà, comme vous et moi, qui, à partir d'un tuto sur YouTube, réparent leur machine, tout ça. Donc on y arrive peu à peu, et après on se dit, bah tiens, finalement, en plus, pour l'avoir fait moi une fois sur un petit bout d'écran de téléphone sur un iPhone 13, quand c'est bien réparé, tout ça, une certaine fierté, se dire, tiens, en plus ça se voit pas du tout, donc il y a ce côté fierté. Et je pense qu'Apple, sorti de ça, Apple, bah, la concurrence, quand ils commencent à voir les concurrents qui nous disent, nous, vous pouvez, en plus en général, qu'est-ce qu'on change? C'est l'écran, c'est peut-être on a cassé
la batterie.
C'est la batterie, voilà.
La batterie, c'est le truc qu'on change en premier.
C'est pas parce la puce M3, voilà,
c'est ce qui s'use.
Voilà, c'est pas la puce M3 à l'intérieur et les transistors qu'on va changer. C'est la batterie, c'est le plus gros, c'est la batterie. Mm-hmm. Ça peut être l'écran ou ça peut être
le capteur photo à l'arrière.
Photo derrière. En général, c'est ça. Ouais. Et puis un petit coup de nettoyage. Donc, ou alors les connecteurs, peut-être parce qu'ils ont pris un peu d'eau, choses comme ça. Donc, c'est des choses assez, entre guillemets, assez simples. Et là où les autres le font, Apple ne permettait pas de le faire ou le permettait sur des conditions et à des prix complètement dingo. Enfin, changer un écran chez Apple, c'est 300 euros. Enfin,
oui, c'est exorbitant. Si t'es sorti de l'Apple Car, si t'es encore sur Apple Car, ça peut être un petit peu.
On voit l'habitude.
Oui, quand même.
Elle a bien étudié le sujet.
Derrière, on voit que les solutions d'appareils reconditionnés, les batteries et tout ça, c'est intéressant, mais parfois c'est un peu la loterie. Hein.
Oui. Parfois, on tombe sur un appareil qui n'a pas été bien remonté.
En plus, c'est une garantie back market, c'est pas une regarantie Apple que l'on relance. Donc voilà, je pense que Apple se rend compte aussi de ça.
Ouais. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez vu aussi, c'est que malgré tout, avec cette nouvelle mesure, Apple va combattre le vol de smartphones.
Argument qui est très intéressant.
Je trouve que c'est très intéressant.
D'Apple que le Parisien a interviewé, parce que aujourd'hui, tu as presque envie de dire que les éléments de langage d'Apple pour justifier un lancement, une stratégie, tu peux quasiment les préécrire. Pourquoi est-ce que justement ils lancent cette nouvelle politique en matière d'économie circulaire et de réparabilité ? Sécurité et fiabilité, nous dit ce vice-président d'Apple en charge justement des produits et des composants. Et il nous dit que la réparabilité, c'est pas le but qui est justement escompté par Apple, mais c'est la longévité qui compte. Donc c'est extrêmement intéressant. Et l'argument de aujourd'hui, on va pouvoir mieux aider les forces de police à travailler quand votre iPhone est volé ou quand certains composants ne peuvent pas être.
Parce que rappelons-le, hein, quand par exemple vous faites piquer votre smartphone, votre iPhone, aujourd'hui il est très compliqué, voire quasiment impossible, de le resetter et de le faire repartir. Donc ce que font les gens, c'est qu'ils le démontent et ils vendent les pièces détachées. Et bien là, avec cette nouvelle mesure, on ne pourra pas mettre par exemple un écran d'un iPhone volé sur un iPhone officiel, on va dire. Parce que dès que vous allez brancher cet écran issu d'un iPhone volé, l'iPhone va détecter et va désactiver la pièce. Donc ça va aussi peut-être enquiquiner encore plus les voleurs d'iPhone.
Et leur argument, c'est de dire, on ne veut pas encourager un marché parallèle sur les pièces détachées.
On arrête là.
Ok.
Il est 20h42. Merci beaucoup, Marjorie. Marjorie Paillon, merci, Fred Simotel. Et vous restez avec nous. Dans un instant, juste après cette petite pause, comme promis, ce sera notre longue interview grand format du CEO de Grok. Jonathan Ross sera sur notre plateau. Et vous allez voir, il a une vision de l'intelligence artificielle qui est passionnante. On va évoquer tous les sujets liés à l'IA, bien évidemment. La concurrence avec Nvidia. Est-ce que l'IA va supplanter l'humain demain? Et est-ce que l'IA aussi va consommer toujours autant d'énergie? Bref, tous les sujets d'actualité, on va dire, de l'intelligence artificielle, on les évoque dans un instant avec cette interview exclusive. A tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et un invité exceptionnel pour clôturer en fait cette semaine de Tech & Co. J'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau une star de l'intelligence artificielle qui a fait le déplacement à Paris à l'occasion d'un grand rendez-vous qui s'appelle Raise, dont c'était le premier numéro il y a quelques jours. Il s'agit de Jonathan Ross. Jonathan Ross, bonsoir et merci d'être avec nous.
Thank you so much for having
Merci
me.
Beaucoup de me really recevoir. Je suis vraiment reconnaissant que vous m'invitiez.
Alors, vous êtes le patron de Grok. Grok, on en parle un petit peu dans Tech & Co, dans cette émission dédiée à la tech que vous retrouvez tous les soirs sur BFM Business. Grok est un peu l'accélérateur de l'intelligence artificielle. Pour que vous compreniez bien ce que fait Jonathan et toute son équipe, aujourd'hui, lorsque vous allez chatter sur ChatGPT, vous avez toujours remarqué qu'il y a un temps de latence entre le moment où vous écrivez quelque chose et où la réponse apparaît. Parfois, c'est rapide. Parfois, c'est moins rapide. Et en fait, Jonathan, avec son équipe et avec les processeurs qui, en fait, triturent toutes ces données, arrive à avoir un taux de réponse, une latence qui est quasi instantanée. Et en fait, on se rend pas compte, mais ça va tout changer dans notre rapport avec l'intelligence artificielle générative. Jonathan, est-ce que c'est ça ce que vous êtes en train de mettre en place?
That's correct.
So, exactement. Généralement, lorsque l'on utilise l'un de ces modèles LLM, on attend longtemps pour avoir sa réponse. Et c'est un petit peu comme à l'époque, vous vous rappelez peut-être ces bruits horribles que l'on faisait avec les modems 56K, et on a un peu l'impression que c'est cela quand on utilise l'IA maintenant, ça prend une éternité. Et ce que l'on fait, on fait arriver le haut débit dans les LLM pour tout le monde. Donc on ne crée pas les modèles, on prend des modèles open source que d'autres ont créés, on les met dans notre matériel et on les fait tourner très vite. La différence est que c'est beaucoup plus naturel. C'est presque comme quand on fait une recherche ou qu'on utilise un ordinateur et qu'on a une réponse rapide. Ce que cela fait, c'est que cela améliore l'usage, l'engagement avec l'utilisation. Tout ce qui est rapide, on l'utilise plus, c'est plus facile, la charge cognitive est moindre. Et quand on utilise un ordinateur, généralement, on n'attend pas qu'une page se charge et on ne la regarde pas comme ça. Les yeux vont dans tous les sens et l'on peut retrouver ce que l'on veut, et donc on peut commencer à poser des questions pour rebondir.
C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce au très haut débit, on n'a plus le luxe d'attendre quelque chose, en fait. On veut que notre page Internet s'affiche très vite, on veut écouter la musique très vite, la vidéo très vite, et ça va être pareil pour l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, cette intelligence artificielle générative, elle l'est dans notre quotidien, mais elle le sera encore plus. Première petite question, vous êtes un spécialiste des processeurs depuis pas mal de temps, parce que avant de créer Grok, vous étiez chez Google, vous avez été l'un des papas en fait du Tensor Unit, qui était cette puce qui était dans les premiers pixels, je crois, c'est ça?
En fait, on a commencé dans les data centers, en fait. Et il y a un autre groupe qui a construit les processeurs qu'on a retrouvés dans les téléphones. Mais en fait, c'était des efforts assez connexes. Nous travaillions en parallèle. Mais ce que je faisais, c'est que je travaillais dans les data centers. Et je crois qu'après un an de déploiement, plus de la moitié de tous les calculateurs de Google se faisaient sur nos processeurs TPU.
Aujourd'hui, on voit qu'il y a une explosion en fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de Nvidia, qui est un peu la star en fait de cette puissance de calcul. La valorisation de Nvidia est incroyable. Tout le monde veut acheter des puces Nvidia. Vous êtes un petit peu le poil à gratter en quelque sorte de Nvidia pour les concurrencer en quelque sorte avec vos processeurs et Grok.
On n'aime pas se voir comme des concurrents. Nvidia est incroyable pour l'entraînement, la création de modèles. Avant de pouvoir les utiliser, il faut les créer. Et depuis un an ou deux, tous les modèles qui ont été créés sur du matériel NVIDIA. Il faudrait que ça continue. Ce que nous faisons, c'est que nous faisons que ça tourne rapidement lorsqu'on les utilise. Comme tout le reste dans la vie, par exemple, quand vous créez une émission de télé, il faut d'abord la créer, mais ensuite, il faut la distribuer pour que tout le monde puisse la regarder. Nous, nous sommes plus du côté distribution. Alors, les cartes graphiques ne sont pas très bonnes pour faire tourner les modèles. C'est pour cela que c'est si lent. Imaginez que si les pages web se chargeaient si lentement, ça serait très frustrant. Nous, nous sommes environ 10 fois plus rapides pour faire tourner les modèles lorsqu'on les utilise. Et c'est beaucoup moins coûteux et surtout, cela utilise beaucoup moins de puissance. Et généralement, ce qu'il se passe encore et encore, c'est que avant d'avoir les modèles, avant de les faire fonctionner, de les rendre opérationnels, on ne se rend pas à quel point ça va être coûteux de les faire tourner. Et on ne parle pas, on parle vraiment du coût de l'entraînement, de l'impossibilité de tout cela. Mais en fait, une fois qu'on les rend opérationnels, on poste sur Twitter quel est vraiment le coût vraiment faramineux de l'inférence. Et l'inférence, c'est ça qui est l'utilisation du modèle. Peut-être qu'on est un petit peu un poil à gratter pour certaines grosses entreprises, mais il ne faudrait pas que ce soit le cas. Parce que plus on permettra de faire fonctionner les modèles, plus il y aura de demandes pour l'entraînement des modèles.
Mais est-ce que Nvidia ne va pas progresser aussi sur votre segment? C'est-à-dire que aujourd'hui, vous le dites, ils sont très bons pour le calcul de cette intelligence artificielle. Vous êtes excellent pour la restituer en fait au public, hein, si j'ai bien compris. Est-ce que Nvidia ne travaille pas sur un système équivalent au vôtre?
Quand une puce peut faire de l'entraînement, elle peut aussi faire de l'inférence. Quand une puce peut faire de l'inférence, elle peut aussi faire de l'entraînement. La différence, c'est ce pourquoi on l'optimise. Et les cartes graphiques sont optimisées pour l'entraînement. Elles sont excellentes pour cela. Et si vous les avez, vous pouvez aussi les utiliser pour l'inférence. Mais généralement, ce que l'on constate, c'est qu'il faut 10 à 20 fois plus de pouvoir de calcul pour l'inférence. Donc si vous allez déployer 95 à 90% de votre calcul pour l'inférence, il faut quelque chose qui est vraiment optimisé pour cela. Je m'attends vraiment à ce que tout le monde essaye de faire à la fois l'inférence et l'entraînement, mais les architectures de puces sont tellement différentes entre les deux que si vous deviez optimiser l'interconnecteur, ce qui permet aux puces de communiquer les unes avec les autres pour l'entraînement, ce ne serait pas très bon pour l'inférence et vice-versa. Nous ne sommes pas très bons pour l'entraînement. On peut le faire, il y a des clients qui nous utilisent pour cela, par exemple parce qu'il y a de la capacité inutilisée, ils souhaitent la mettre à profit, mais c'est un petit peu du gâchis parce qu'il y a tellement de demandes de calcul actuellement qu'il faudrait utiliser les meilleures puces, ce pour quoi elles ont été conçues.
Cette rapidité que vous mettez en avant en fait avec Grok, et d'ailleurs on a vu des démonstrations, je crois qu'en France on ne peut pas encore utiliser Grok vraiment, il faut s'inscrire, mais la France n'est pas encore ouverte. D'ailleurs, vous savez quand est-ce qu'on pourra utiliser votre modèle en France?
Eh bien, en fait, dans le monde, généralement, on rend cela disponible pour tout le monde. La France a le même accès que les États-Unis. Ce qu'il se passe, c'est qu'on ne s'attendait pas à être aussi populaire. Et donc, il y a un peu plus de 30 jours, nous avions moins de 10 développeurs. Maintenant, 30 jours plus tard, nous avons plus de 77 000 développeurs et 21 000 applications. Donc, ce que nous faisons, c'est qu'en coulisses, nous faisons monter en cadence le matériel. D'ici à la fin de l'année, nous attendons à avoir plus de pouvoir de calcul que OpenAI au début de l'an dernier, sans l'aide de Microsoft. Actuellement, on rend cela disponible pour les développeurs pour qu'ils créent des applis. Et il y a beaucoup de demandes pour le déploiement. Et en fait, tout le monde chez Grok a un de ces challenge coins, comme on les appelle, une pièce spéciale, je ne sais pas si vous la voyez, mais 25 millions de jetons. Et Grok de l'autre côté. Donc, il faut que ça soit réel, que ce soit instantané et époustouflant. C'est notre devise. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on aura presque autant de pouvoir de calcul que les plus grands hyperscalers ou les grands prestataires de cloud du monde. D'ici à la fin de l'an prochain, on s'attend à avoir environ 16 fois ça, ce qui fera de nous le plus grand prestataire de calcul dans le monde. Pour l'instant, on essaye vraiment de suivre la demande et on vous demande un petit peu de patience alors que l'on fait monter en cadence.
C'est la victime du sujet. Vous êtes victime de votre succès finalement, hein, si j'ai bien compris. Votre particularité, on l'a expliqué au début, c'est la rapidité en fait de la réponse de ce que vous proposez lorsque on envoie une requête. Qu'est-ce que ça va changer dans notre rapport avec l'intelligence artificielle, à votre avis, cette vitesse, cette latence très faible?
Je crois que ce que cela va permettre, c'est que l'IA sera beaucoup plus naturelle. Pour l'instant, elle n'est pas naturelle. Imaginez si je parlais comme cela. Là, déjà, vraiment, ça vous fait frémir et ça, vous ne le supportez pas. Nous avons tout un tas d'entreprises qui construisent des IA de génération de paroles en plus de nos puces. Et à vu la vitesse, c'est une conversation comme on l'a maintenant. Vous pouvez l'interrompre, vous pouvez vous chevaucher, vous pouvez répliquer et ça va rendre les choses faciles. Ça va réduire le frottement, cette charge cognitive où il faut vraiment préparer ses réflexions pour attendre une réponse. Si Alexa, Google ou tout cela, si vous posez une question, eh bien là, il faut attendre 4 secondes. Je ne vais pas vous obliger à faire cela dans notre interview. S'il fallait attendre 4 secondes, là, ça va être instantané.
Oui, on a l'impression de se retrouver dans les duplex, vous savez, des journalistes qui sont par satellite. C'est vraiment, le temps de latence est parfois long. Et c'est vrai que ça casse un petit peu la spontanéité, en fait, des échanges qu'on a. Vous parlez donc de cette rapidité d'exécution. Est-ce que cette rapidité d'exécution, elle est aussi dans la vidéo, dans l'image? On voit qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative, ce n'est pas que de l'écrit, c'est aussi la génération d'images, de vidéos. Vous êtes aussi performant dans tous les modèles?
That's right. And
complètement. Aujourd'hui, créer des images, c'est assez rapide, même avec les cartes graphiques d'aujourd'hui. Ça n'est pas tout à fait assez rapide, mais on va y arriver. Là où il va, et on les appelle les LPU, nos puces. On appelle ça des unités de traitement de langage, LPU en anglais. Mais elles sont quand même très bonnes pour les images, et notamment la vidéo. Donc maintenant, imaginez que vous pouvez taper un prompt « Je veux une vidéo d'un robot qui danse sur la table ici, ça le fera immédiatement en direct. Ça, c'est quelque chose que l'on pourra rendre possible et ça va vous changer toute l'expérience. Ce qui va changer, ce qu'il va se passer pour nous quand on voit ce que font les clients autour de nous. 21 000 applications. Certaines de ces applications sont des choses qu'on n'a même jamais vues dans les films de science-fiction parce qu'on donne aux gens des outils dont ils ne disposaient pas auparavant et donc ils font des expériences qu'ils ne faisaient pas avant. Complètement inédites et donc on verra des choses comme là, lorsque l'on parle, avec les mains. Moi, je ne suis pas très bon pour cela, mais certains sont très bons. Et maintenant, imaginez que quand l'IA parle, imaginez qu'elle va générer des images, des vidéos en direct pour vous aider à mieux comprendre ce qu'elle dit. Ça vous aidera à mieux appréhender et ça donnera un canal d'information supplémentaire. De façon tout à fait réelle, imaginez que vous pourrez expliquer à des enfants des concepts, pas simplement avec des mots, mais aussi visuellement, en direct. Le langage, c'est aussi de la vidéo, de l'image et tous ces autres canaux de communication.
Il y a aussi des expérimentations qui sont intéressantes avec la robotique. Vous connaissez sans doute Figure.ai qui a posté une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur Twitter qui était impressionnante, où on voyait donc un robot humanoïde qui en fait répondait à un humain sur le tri par exemple de déchets qu'il y avait sur la table, etc. Il y avait cette petite latence qu'on évoquait et que vous faites disparaître. Est-ce que ça va aussi être à votre avis un starter important pour la robotique?
Complètement. En fait, l'une des façons d'appréhender la chose, et là vous parlez de la robotique, vous parlez d'interagir avec le monde réel, de faire des choses, toucher des choses, manipuler des choses. Si vous y réfléchissez, imaginez que vous pourrez porter des lunettes VR. Et s'il y a une caméra sur vos lunettes de réalité virtuelle, il y a toujours un petit retard et vous pouvez mettre ce retard à une seconde, trois secondes. Imaginez essayer de couper des carottes avec un retard d'une seconde, de trois secondes. Là, ça commence à faire peur.
Ça va être dangereux pour le doigt, je pense.
Bien sûr. Et pour la carotte aussi. Imaginez que vous jouiez au ballon avec votre enfant et que vous ayez un retard d'une seconde. Là, il va falloir pouvoir prédire la trajectoire du ballon. Ça n'est pas trop difficile. Mais s'il faut prédire les choses avec trois secondes d'avance, il faut prévoir où, si l'on va même lancer le ballon, et où, ça c'est quasiment impossible. Et là, vous essayez de lire les intentions d'une personne. Quand vous avez ce genre de retard avec la robotique, c'est tout aussi dur parce que le robot interagit avec le monde réel. Si vous avez un tissu souple comme cela, si vous essayez de le faire bouger, c'est difficile parce qu'il y a un petit peu d'effet retour et les robots ont du mal avec tout ce qui bouge comme ça. Ils aiment bien les objets rigides. Et donc, beaucoup de bras robotiques sont très lourds, donc il faut beaucoup plus d'énergie pour les faire bouger, et ça, c'est dangereux. Mais si vous pouvez réagir rapidement, là, vous pouvez manipuler des objets tels que cela, beaucoup plus facilement, des choses souples, des choses qui ont du retour, qui n'ont pas beaucoup de poids, sans grand danger. Et donc, vous pouvez les faire arriver dans votre foyer sans avoir le risque que ce gros bras robotisé frappe quelque chose. Et vous utilisez moins d'énergie avec beaucoup plus d'efficience et avec beaucoup plus de finesse.
Et quand on combine tout ça, en fait, avec la prédiction possible avec l'intelligence artificielle, si on reprend le cas de votre robot, on arrive aujourd'hui à prédire certaines fonctions, ça sera encore plus efficient finalement, non ?
That's correct. In fact,
absolument.
More efficient, but also,
plus efficient, mais aussi vous pourrez faire des choses qui ne seraient pas possibles auparavant. Mais en fait, approfondissons la question. Imaginez ce qui va être rendu possible à l'avenir. L'une des craintes que l'on a autour de l'IA est de savoir si elle va remplacer les emplois des humains. Il y aura des emplois qui vont être remplacés, mais on va créer plus d'autres emplois. Ça ne va pas être amusant pour tout le monde. Et là, il faut simplement accepter que cela va se produire. Mais comment est-ce que l'on rend cela bénéfique pour nous ? Plutôt que d'en avoir peur, il faut rendre cela positif. L'une des choses que l'on verra énormément, c'est que dans les articles que l'on écrit, dans l'histoire, il n'y avait pas tellement d'articles qui avaient des images, simplement quelques-uns. Mais maintenant que l'on peut créer des images, on voit beaucoup plus d'articles avec des illustrations. En fait, maintenant, on passe plus de temps, et donc plus de temps humain est passé, ou plus de travail est fait pour générer des images qu'auparavant. Et ça, on appelle ça le paradoxe de Jevon. Dans les années 1860, quelqu'un a créé un traité sur le charbon. Il s'appelait Jevon. Et donc, il disait que quand on augmentait la performance des chaudières à charbon, eh bien, on augmentait la consommation. Donc, plus on améliorait l'efficience, on consommait plus de charbon parce que c'était plus économique. Il était plus abordable de faire d'autres choses. Et maintenant, c'est abordable de créer des images. Tout le monde peut le faire sans être obligé d'être formé pour cela. Maintenant, donc, les experts font des choses plus intéressantes parce qu'ils peuvent se débarrasser de tout ce qui est vraiment pénible. Selon moi, on peut s'attendre à ce qu'avec plus d'outils fondés sur l'IA, il n'y ait pas assez de personnes pour faire tout ce qui est maintenant rendu possible et abordable. Auparavant, ça aurait été très coûteux pour des humains. Maintenant, il va y avoir une pénurie de main-d'œuvre. Ce qu'il faut faire, néanmoins, c'est s'assurer que tout le monde apprenne les compétences qui vont être rendues nécessaires pour pouvoir remplir tous ces emplois qui n'existaient pas auparavant. L'un des pères fondateurs des États-Unis, Thomas Jefferson, je crois, a dit que la raison pour laquelle nous sommes hommes d'État et guerriers, c'est pour que nos enfants puissent être hommes d'affaires et avocats, pour que leurs enfants à eux puissent devenir artistes et reporters ou animateurs. Là, il n'a pas parlé des animateurs télé, mais bon, s'il avait vécu plus longtemps, il aurait dit pour que leurs enfants puissent être influenceurs ou que sais-je. Et donc, il va y avoir deux nouvelles professions qui n'existaient même pas dans la science-fiction qu'on n'imaginait même pas. Et donc, il faut simplement s'ouvrir à ce changement.
Donc, vous êtes plutôt optimiste sur l'avenir, en fait, de l'humanité grâce à l'intelligence artificielle. Et une autre question, certains experts disent qu'on est en train de vivre une révolution encore plus impressionnante que celle de l'arrivée de l'Internet. Quel est votre point de vue là-dessus, avec l'intelligence artificielle ?
Je serais plutôt d'accord avec cela. Je ne ferais pas référence à l'IA comme étant le prochain Internet ou le prochain téléphone portable. La raison en est que quand vous prenez Internet, Internet et le portable, c'est ce que l'on appelle des technologies de l'ère de l'information. Vous prenez quelque chose qui existe et vous en faites une copie à haute fidélité identique et vous le distribuez le plus rapidement possible. Internet fait des copies, les envoie. Le portable fait des copies, les envoie, mais dans la main. mais là, ça n'est pas vraiment différent de ce que l'on faisait avec les presses imprimées. Les presses imprimées, c'était aussi une technologie de l'ère de l'information. L'IA générative est différente. Pour moi, ce serait l'âge, l'ère générative. La prochaine génération sera la Gen-Gen, la génération générative. Et donc, vous aurez une réponse personnalisée à une question en particulier. Il ne s'agit pas de copier, mais de créer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Ça, en fait, ça va être très difficile à démêler pour nous. Mais une fois qu'on aura cette technologie en main, ça sera très important que tout le monde y ait un accès égal pour qu'on puisse tous apprendre le plus rapidement possible à s'en servir. On va commencer à faire des choses qu'on n'imaginait même pas auparavant.
Jonathan Ross, rappelons que vous êtes le CEO donc, de Grok. Vous êtes en France, est-ce que vous connaissez bien la France ?
C'est la deuxième fois que je viens. La dernière fois, c'était il y a seulement un mois et demi. Alors, même si je ne connais pas bien la France, mais elle est tout à fait familière pour moi. Et de très bonne façon, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui accourent autour de l'IA ici, et il y a beaucoup d'intérêts. Et il semblerait que la France soit vraiment en avance de phase. Ce que j'ai appris hier soir a été vraiment époustouflant pour moi. La France a un programme délibéré depuis 7 ans dans les écoles pour commencer à apprendre aux chercheurs quelle est la mathématique nécessaire pour être bon dans l'IA. Et moi, j'ai fait le tour du monde. En fait, je vient de faire une tournée européenne et moyen-orientale de 5 semaines, un petit peu aux États-Unis aussi. Et la France est l'un des pays les plus avancés lorsqu'il s'agit de l'IA. Vous avez une expertise dans le pays, ce qui explique pourquoi il y a tellement de start-up de l'IA qui commencent en France. Et c'est peut-être une coïncidence, mais ce programme d'il y a 7 ans a commencé en même temps. Et donc, il faut pas mal de temps pour que les choses arrivent à maturité, mais en arrivant ici, j'ai rencontré des personnes qui étaient tout à fait au fait des idées et des connaissances nécessaires pour développer l'IA.
Et d'ailleurs, quand on suit votre parcours, vous avez été en contact avec un Français connu dans l'intelligence artificielle, il s'agit de Yann LeCun, qui a été votre prof, c'est ça ?
That's correct.
Absolument. Yann LeCun était mon professeur de premier cycle à l'université de New York et j'ai pris mon premier cours d'IA et d'apprentissage machine avec Yann et il a parlé des réseaux neuronaux convolutionnels. En fait, Yann a gagné le prix Turing, qui est le prix Nobel de l'informatique. C'était l'une des 3 personnes à inventer les algorithmes qui sont vraiment derrière l'IA moderne. Et en particulier, il se concentrait sur la vision et la façon dont on interprète les choses. Et j'ai une anecdote amusante à raconter là-dessus. Yann est absolument génial, mais à l'époque, il n'y avait pas tellement de manuels sur ces réseaux neuronaux convolutionnels. Et donc, il nous apprenait tout cela en cours, et puis on a pris un peu de retard en cours concernant les documents, et donc toute la classe a eu une mauvaise note, et donc Yann souhaitait pas simplement nous donner la moyenne pour nous faire passer. En fin de compte, moi, j'ai arrêté mes études, je n'ai jamais obtenu mon diplôme, et donc quand j'étais chez Google et que j'ai créé ce processeur TPU, Andrew Ng, l'un des grands informaticiens de l'IA, m'a envoyé un mail pour dire Yann LeCun a demandé une bourse pour développer du matériel pour l'IA, et toi, tu es expert du matériel pour l'IA. Est-ce que tu souhaites parrainer cette bourse ? Et donc, j'ai reçu le formulaire. Le formulaire a dit : est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous auriez un conflit d'intérêt pour parrainer cette bourse pour Yann LeCun ? Et j'ai dit : oui, oui, Yann LeCun était mon professeur à l'école. Il ne m'a jamais rendu ma note, mais il faut quand même lui donner la bourse parce que c'est un génie. Et donc, on a fini par lui donner cette bourse. Et il a fait tous ses travaux. On a eu des interactions. On est resté en contact. En fait, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, alors que l'on se déplaçait tous les deux. On a pu vraiment se rencontrer, mais il est incroyable.
Vous êtes aussi en France parce qu'on murmure que vous pourriez créer une filiale de Grok ici, en France. C'est une solution que vous envisagez ?
Bien sûr que ça nous intéresse, très certainement, parce que le calcul doit être distribué dans le monde entier à cause de la latence, donc il faut pouvoir être dans différentes régions. Nous avons besoin d'un centre de calcul quelque part en Europe, et il y a quelques emplacements candidats, mais la France est l'un de nos préférés pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous préparez l'IA depuis 1 ou 2 ans, donc vous êtes prêt pour faire cela. Ensuite, vous avez une électricité propre et abondante, beaucoup plus que dans le reste de l'Europe. Et puis, Il semblerait qu'il y ait beaucoup d'intérêt pour déployer l'IA ici. Donc ce que nous souhaiterions faire, c'est construire un très grand cluster de calcul qui pourrait desservir toute l'Europe à partir de la France. Et donc vous pourriez être le centre de l'IA, notamment pour l'inférence, quand on utilise les modèles au quotidien à partir de la France.
Et vous êtes ici en France pour vous intéresser justement au financement, aux aides que vous pourriez, dont vous pourriez bénéficier, aux sites que vous pourriez choisir aussi. Quand est-ce que vous allez statuer sur cette décision ?
L'une des choses qui est assez inhabituelle avec Grok, c'est qu'en fait, généralement, nous ne cherchons pas des subventions ou des aides d'État. Nous souhaitons avoir des partenariats. Ce que nous faisons, c'est que nous assurons que quoi que l'on fasse, c'est bénéfique à la fois pour nous et la société. L'une des façons de développer ces partenariats, c'est une propriété à 50-50. Nous développons le matériel et chaque fois qu'on se déploie, les capitaux sont apportés au début. Mais ensuite, nous répartissons nous divisons les bénéfices. Et nous pensons qu'un partenariat entre le public et le privé, le commercial et la société, c'est la meilleure façon de développer tout cela parce qu'il faut être aligné sur ce dont a besoin la société, mais il faut aussi ce soutien commercial afin de pouvoir avoir les moyens nécessaires. Donc à 100%, mais pas des aides, des partenariats.
Ce projet donc de filiale de Grok ici en France pourrait concerner combien d'emplois et quel type d'emploi vous pourriez rechercher ? Des ingénieurs avant tout ?
La façon dont ce serait très utile pour la France, c'est que la plupart des startups que l'on lance aujourd'hui, là, ça va avoir l'air très étonnant, mais la plupart quittent les grandes entreprises technologiques parce qu'ils n'ont pas assez de pouvoir de calcul. Je ne vais pas donner de nom, mais il y a une startup française qui parle à l'un des cofondateurs et ils ont dit simplement qu'ils n'avaient pas assez de puissance de calcul, donc ils sont partis créer leur propre startup. Et donc, ils ont encore du mal à trouver assez de calcul. Et donc, on ne peut pas avoir de voitures sans pétrole, on ne peut pas avoir d'IA sans calcul. Ce que l'on essaye de pouvoir faire en France, si l'on construit un grand centre de calcul, c'est donner des incitations à toutes ces startups à venir ici, dans le pays. En toute transparence, les data centers n'apportent pas beaucoup d'emplois et les centres de calcul non plus. Mais ce que cela fait, c'est que si vous apportez la puissance de calcul ici, ça vous donne la puissance brute, la ressource brute pour créer ces autres emplois au-dessus. Et c'est cela que l'on souhaite faire. Donc, comme je l'ai dit, nous avons maintenant 77 000 développeurs qui nous utilisent. On pense à déployer beaucoup plus de calcul que cela en Europe et donc vous pourriez créer beaucoup plus que 77 000 emplois en déployant cela ici.
Quand est-ce que vous pourriez prendre cette décision du choix de votre pays d'installation en Europe ?
Là, on parle à beaucoup de gens dans les différents niveaux de l'État, en France aussi, des partenaires commerciaux. Donc, nous avons trouvé que c'était très utile jusqu'à présent. Et la décision va être grandement fondée sur le fait qu'on aura assez d'électricité, assez de capital aussi pour lancer ces partenariats et en tant qu'investissement et pas sur une base d'aide publique. Et là, je crois qu'il y a beaucoup d'intérêt pour l'instant. Je ne peux pas donner de date précise, mais nous avons déjà eu ce genre d'accord dans un autre pays. Et l'intention, c'est de développer 1,5 million de puces d'ici à l'an prochain et 10% ont maintenant été affectés pour un autre pays. Donc, on essaye d'utiliser, on a l'intention d'utiliser notre succès dans cet autre pays comme vraiment plan de départ pour ce que l'on souhaite faire ici en France.
L'Europe a mis en place un système de régulation l'intelligence artificielle qui dénote un peu de ce qui se passe aux États-Unis. Alors même si elle est plus ou moins régulée là-bas, on sent que en Europe c'est un sujet qui est pris beaucoup plus au sérieux. Quel est votre point de vue sur justement cette IA Act qui est développée chez nous ?
C'est tout à fait nouveau et je n'ai pas vraiment pu lire le projet et c'est tout à fait long aussi. Ce pourquoi je milite, c'est que je pense qu'il faut une législation sur l'IA. C'est vrai pour tout ce qui est aussi important et puissant que cela. Mais ce sur quoi il faut se concentrer le plus, c'est s'assurer que l'on préserve des élections libres et équitables. La raison en est que si l'on fait cela, là, on pourra régler tous les autres problèmes en temps et en heure. Aux États-Unis, on ne permet pas d'avoir des financements extérieurs dans les élections, donc il ne faut pas avoir de calcul étranger aussi dans les élections. Donc chaque pays doit pouvoir prendre sa propre décision quant à ses dirigeants et leur propre processus. Il ne faut pas s'ingérer là-dedans. Donc, ce qui est à notre faveur, c'est une législation et des efforts visant à préserver le caractère sacré des élections. Si l'on fait cela, eh bien, on a suffisamment de temps pour savoir ce que l'on pourra faire ensuite. Mais moi, je ne me précipiterai pas pour les autres parties. Je souhaiterais vraiment pouvoir apprendre quelle est la situation et ce qui perturbe les gens. Là, on a parlé de l'ère de l'information et de l'ère générative. En se concentrant sur les données, là, c'est une approche de l'ère de l'information, ça n'est pas une approche de l'ère de générative. L'ère générative, c'est plus une question de calcul, alors que l'ère de l'information, c'est une question de données. On en a besoin. On a besoin d'énergie pour l'IA, il y a aussi besoin de données, mais il faut aussi du calcul, et c'est une chose supplémentaire à laquelle il faut commencer à réfléchir. Ce qui est très important en cela, c'est qu'il faut en avoir suffisamment pour que tout le monde puisse y avoir accès. Nous ne créons pas non plus les modèles, donc nous-mêmes, nous ne sommes pas vraiment directement touchés par la portée de cette législation. Et puisqu'on n'est pas directement couvert par cette législation, et puisque nous ne sommes pas experts, je ne souhaite pas donner trop d'avis en cela. Mais là, il faut préserver les élections et ensuite nous aurons le temps de tout démêler.
Pourquoi avez-vous appelé votre société Grok ? Tout ça résonne en plus avec une actualité assez étonnante, c'est que un certain Elon Musk a décidé de créer aussi une société qui s'appelle Grok, qui est un peu son intelligence artificielle qu'on peut retrouver sur Twitter. Est-ce que c'est un pur hasard finalement, ou est-ce qu'il y a des connexions entre les deux ?
Sans trop entrer dans les détails, parce que nous avons envoyé une lettre à cette entreprise pour qu'ils arrêtent d'utiliser ce nom, mais aux États-Unis, quand on était petit, on a appris quelque chose. C'est vraiment, quand on dit Proms, on est propriétaire. Et nous, on a dit Proms sur le nom Grok. Mais vraiment, nous sommes propriétaires de la marque commerciale déposée. Ça a créé pas mal de confusion. C'est pour cela que nous avons envoyé cette lettre pour qu'ils arrêtent d'utiliser le nom. Et je pense que notre propriété intellectuelle sera respectée.
Donc, vous souhaiteriez que Elon Musk et Twitter changent de nom de son intelligence artificielle ? Vous irez jusque-là ?
Eh bien, en fait, nous leur avons fait une recommandation.
D'accord.
Le nom Grok vient d'un livre qui s'appelle « En terre étrangère ». Et quand Elon a annoncé qu'il allait lancer une IA avec un nom très semblable, il a dit qu'il avait été inspiré par un autre livre qui est le guide du voyageur intergalactique. Et donc, nous avons commencé à regarder dans ce livre, il n'y avait pas ce nom-là. Donc, nous avons proposé qu'ils utilisent un terme de ce livre, Slurdy Bartfast. Donc, on pensait que c'était plus adapté, ça veut dire robuste mais rapide. Bon, on ne pense pas que ça a été très bien accepté par Musk, mais enfin, en fin de compte, la façon dont fonctionne le droit sur les marques commerciales, c'est que, en fin de compte, vous n'aurez pas le choix, il va falloir changer. Donc, on préférait ne pas venir en venir à là, mais on ne souhaite pas intenter de procès. Et pour une entreprise qui a 7 ans, ça vous donne vraiment une impression de à quel point nous nous entendons bien avec d'autres, nous cherchons le partenariat, des façons positives de traiter avec les autres. Mais en fin de compte, vu l'état du droit, à un certain moment, il va falloir affirmer ses droits de propriété intellectuelle.
On l'a bien compris. Dernière question, après je vous libère, Jonathan. Concernant votre expertise dans le monde de l'intelligence artificielle, quel est le next step, à votre avis ? Qu'est-ce qui va se passer après l'intelligence artificielle générative ? Est-ce qu'il y a un autre effet waouh qui va impacter notre société sur l'IA dans les mois ou les années qui viennent ?
Je crois que les LLM, c'est vraiment la presse imprimée de l'IA générative. On en est qu'au tout début. Vous commencez par la presse et ensuite il y a tout un tas d'autres technologies. Ensuite il y a Internet, puis le portable. Et donc au sein de l'IA générative, il y a probablement des siècles de technologies supplémentaires qu'il faudra découvrir, inventer et déployer. Mais je crois qu'il y a une prochaine étape dont on parlera si on a encore le temps à l'avenir. Mais l'une des choses qui, à mon sens, devra mériter une certaine réflexion, il s'agit de savoir si l'on doit avoir peur de l'IA. Je ne crois pas que cela s'impose. En fait, Galilée a eu quelques petits problèmes il y a quelques siècles parce que, simplement, il a inventé et distribué le télescope et les enseignements qu'il en a tirés. L'un des problèmes avec le télescope, c'est que vous pouviez regarder le ciel et on pouvait voir que peut-être nous n'étions pas au centre de l'univers, peut-être que nous n'étions même pas au centre du système solaire. Mais avec les modèles LLM, de façon tout à fait pratique, tout comme nous nous sommes sentis tout petits quand on a vu à quel point l'univers était grand, les LLM, c'est comme le télescope de l'esprit. Et donc, à bien des égards, intellectuellement, nous nous sentons tout petits comparés aux LLM. Mais comme avec le télescope, une fois qu'on se rend compte à quel point l'univers est grand et vaste, eh bien, on s'y est habitué. Et on a commencé à en voir toute la beauté. Je pense que ce sera la même chose avec nous et avec l'intelligence. Plus on se rend compte à quel point l'intelligence peut être grande, plus on accepte peut-être que nous ne sommes qu'une petite partie de tout cela et qu'il y a encore beaucoup de marge de croissance, on en verra la beauté qu'il y a à cet espace vaste.
Est-ce que malgré tout, on se rapproche d'une intelligence, on va dire, équivalente ou supérieure à l'humain avec ce que... OpenAI est en train de mettre en place, ou est-ce qu'on en est encore loin, à votre avis, OpenAI ou d'autres d'ailleurs?
Et si vous vous demandez si l'on va se rapprocher de l'intelligence artificielle générale, c'est comme cela, c'est le terme pour une IA qui soit aussi intelligente que l'humain. Rappelez-vous qu'il y a encore 2 ans seulement, le test standard pour savoir si une IA était équivalente à l'humain, c'était le test de Turing. Pour savoir si vous parliez à cette IA, est-ce que vous pourriez déterminer si c'était un humain ou pas? Eh bien, à ce stade, on s'est rendu compte que ce test n'était pas suffisant parce que, en fait, vous pouvez parler à une IA. Et, par exemple, il y a un bot fondé sur la voix qui utilise notre technologie de LPU qui est presque impossible à distinguer de l'humain. En fait, si on l'utilise, les gens entrent dans la pièce et ils pensent qu'ils interrompent un appel téléphonique avec une autre personne. Et donc, on se demande quel sera le prochain test de l'IA parce qu'on voit les limites de ce que peut faire l'IA. Donc il y aura d'autres évolutions, nous n'y sommes pas encore. Mais nous en sommes à un stade où beaucoup de choses qui nous semblaient être réservées à l'humain vont être le domaine des machines également. Ça ne sera pas la première fois. Croyez-le ou non, mais quand on a inventé la calculatrice, eh bien, au début, on se pensait, il n'y avait que l'humain qui pouvait faire de l'arithmétique. Et dans quelques années, on aura l'intelligence générale. Et quand le premier grand maître des échecs a été battu par une machine, on pensait qu'on n'en est qu'à quelques années de l'intelligence générale. Mais le langage est tellement humain que l'on pense qu'on y est quasiment, mais il y a encore un tout petit peu de marge de progression, on n'y est pas vraiment.
Mais c'est vrai qu'avec une calculatrice, on n'a pas de discussion véritablement, on n'a pas d'échange, alors qu'aujourd'hui, avec une IA et votre capacité de calcul qui nous permet d'avoir une discussion, on va dire, quasi instantanée et spontanée, on se rapproche en fait de ce qu'on est. Et ça peut-être créer de l'empathie, de la bienveillance et parfois même des sentiments. On se souvient du film Her. Est-ce que vous pensez que ce film va rester longtemps quelque chose du domaine de la science-fiction?
The word Grok.
Eh bien, le mot grok, ça veut dire comprendre quelque chose profondément et de façon intuitive, avec empathie, dans ce livre. Et donc, dès qu'on a lancé grok, ça a toujours été l'intention. Ce qui est intéressant, c'est que si vous y réfléchissez, il n'y a pas de magie dans l'empathie. Le cerveau humain interprète les signaux et ensuite vous donne une impression de ce que ressent probablement la personne en face. Parfois, on a raison, parfois on se trompe. Comme dans tout ce que nous faisons. Mais on ressent ça au très fond de son être, comme si ça vous arrivait à vous-même. Et actuellement, ces modèles LLM ne ressentent pas ça au tréfonds de leur être. Et c'est ça la différence entre le cognitif et le viscéral. Mais aussi, en tant qu'humain, vous pouvez entendre une réponse, une histoire sur quelqu'un d'autre, et cognitivement, vous pouvez ressentir de l'empathie avec cette personne. Actuellement, les modèles peuvent le faire, et c'est très utile pour des personnes, pour leur permettre de comprendre les sentiments et les émotions d'autres. Ce que je recommande généralement de faire, c'est quand vous recevez un mail ou que vous avez une conversation avec quelqu'un et que vous pensez que cette personne... que cette personne ne vous a pas bien compris ou qu'il a fait quelque chose simplement pour vous créer des difficultés, prenez l'email, saisissez-le dans un modèle LLM pour lui demander « Que pensez-vous que ressent cette personne ?» Et généralement, on va vous donner une bonne réaction et là, vous vous dites « Ah, mais bien sûr, j'aurais dû y penser. » D'une certaine façon, vous pouvez les utiliser pour essayer de comprendre. Mais je pense que la plupart des conflits entre personnes viennent du fait qu'on a tendance à trop généraliser. Il n'y a pas assez de subtilité et de nuances. Vous ne comprenez pas vraiment ce par quoi passe cette autre personne, quelle est leur situation particulière. Et alors que les LLM deviennent de plus intelligents, ils apportent plus de subtilité, de nuances, de curiosité. Et ce que j'espère, c'est que cette prochaine génération, cette Gen de modèles LLM, sera consciente de plus de différences et de distinctions entre les différentes situations pour mieux comprendre l'humain en face, pour mieux traiter ces situations simplement, et donc on pourra mieux s'entendre les uns avec les autres parce qu'il y aura plus de compétences et d'empathie.
Jonathan Ross, merci beaucoup d'être passé sur BFM Business, sur le plateau de Tech & Co, pour nous expliquer ce que vous faites et votre vision de l'intelligence artificielle. C'est passionnant. Rappelons que vous êtes le CEO de Grok, et si vous venez en France, vous serez le bienvenu. Merci encore.
Bien sûr que j'aimerais beaucoup revenir. Merci.
Et bien voilà, c'est avec cette interview exceptionnelle que se termine ce Tech & Co, la quotidienne, pour terminer en beauté cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Et on sera là, bien sûr, dès lundi prochain, 20h, en direct à la radio, à la télé. D'ici là, bon week-end et portez-vous bien.